France Inter, le 18-20.
Depuis la rue d'Aubagne à Marseille, depuis les 8 morts, depuis ces images inqualifiables d'immeubles dans lesquels vous ne feriez pas dormir votre animal de compagnie, on prend conscience, on prend mieux conscience de ce que ça veut dire pour presque 1 million de personnes que de vivre dans un logement insalubre. C'est pas comme si on découvrait que ça existe, évidemment, mais un drame de ce type permet au moins peut-être d'accélérer les choses, de simplifier aussi le maquis des procédures, on verra bien. C'est en tout cas ce qu'a demandé aujourd'hui la Fondation Abbé Pierre, offrir 60 000 logements par an, éradiquer le problème au moins en 10 ans. Mais avant cela, comment pouvez-vous, comment pouvons-nous nous défendre? Quel est le pouvoir du maire? Pourquoi peut-on louer des endroits pareils aujourd'hui encore? Quelle est l'obligation faite au préfet? Comment les propriétaires ne sont pas poursuivis? Il y a un arsenal juridique. Comment le rendre plus efficace? On parle de tout ça ensemble ce soir et soyez les bienvenus.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Odile, c'est vous qui commencez. Soyez la bienvenue et bonsoir.
Merci beaucoup. Merci de prendre mon appel. Oui, bien sûr. Alors, en fait, je voulais témoigner simplement parce que j'habite une petite ville de 15 000 habitants en Seine-et-Marne, dont le cœur est très ancien, donc avec de très vieux bâtiments. Depuis plusieurs années, la mairie a reçu quelques plaintes d'habitants qui, bien sûr, étaient logés dans des logements vraiment insalubres, indignes d'une personne, hein, comme vous l'expliquiez si bien. Alors, en fait, j'ai appris au vœu du maire lundi soir que la municipalité avait pris une décision. Il s'agit d'obliger les propriétaires, les gens qui veulent louer des appartements à partir du 1er mai, de fournir un document qu'il s'appellerait permis de louer. Mmh. Ce permis de louer serait délivré en accord avec la mairie et je pense, après visite des logements par un organisme habilité, je n'ai pas les détails de la procédure, bien sûr, ce n'est pas le moment de demander ça.
Mais on va vous les donner parce qu'on sait comment ça marche. Allez-y, voilà. Pardon, finissez.
Mais c'était juste pour préciser que tous les habitants concernés ont été prévenus depuis quelques mois et qu'à partir du 1er mai, ils ne pourront louer que dans ces conditions, fourniture de ce document.
Et merci beaucoup pour ce premier témoignage, Odile, parce que ça va nous permettre d'entrer effectivement directement dans le vif du sujet sur des solutions qui peuvent apparaître comme des solutions qui ne sont pas finalement si compliquées. Pour discuter ensemble jusqu'à 20h, Christophe Robert est là, bonsoir.
Bonsoir.
Délégué général de la Fondation Abbé Pierre et Alain Gollon. Bonsoir Monsieur Gollon.
Bonsoir.
Secrétaire confédéral de la Confédération Nationale du Logement. Christophe Robert, commençons par expliquer à Odile comment ça marche, parce que ça existe déjà, ça commence à exister doucement, ces permis de louer, notamment en Seine-Saint-Denis. J'ai vu passer un auditeur qui habite l'Hérault et qui en parlait également. Comment ça marche tout simplement en fait?
Alors c'est une possibilité qui est offerte effectivement aux municipalités. L'idée c'est quoi? C'est de dire, avant de mettre un logement en location, accorder un permis de louer. De façon à ce qu'on soit sûr que ce logement corresponde aux normes minimales de décence. Parce que quand on est propriétaire d'un logement, on a une responsabilité, on doit le loger dans de bonnes conditions. C'est la loi. C'est plutôt une bonne idée, a priori. Mm-hmm. Là où il faut être assez prudent.
C'est tout neuf?
En Belgique, ça a pu exister depuis longtemps. Ça a été déjà expérimenté dans les Hauts-de-France, dans notre pays.
D'accord.
Il y a juste une attention à avoir sur ce sujet. Parce que ça, c'est une bonne idée a priori. Mais c'est toute la difficulté de la lutte contre l'habitat indigne. Si on n'a pas les services pour aller faire les visites, pour aller vérifier que c'est bien un logement digne, et qu'on peut donc le mettre en location, et que parce que l'administration ou la ville n'est pas en capacité de délivrer cette visite et donc le permis, on va dire, de facto, oui, c'est un permis de louer. Donc le risque, c'est de faire que des logements soient autorisés à la location et, par exemple, des marchands de sommeil, des propriétaires indélicats, parce qu'il n'y aura pas eu la visite, vont avoir le tampon en disant « Non, mais attendez, vous m'attaquez, moi, vous, la fondation, les associations, etc. » Mais on m'a accordé ce permis. Donc il faut que ça soit accompagné.
Et ça se renouvelle ou pas
d'agir.
Parce qu'effectivement, si on fait la visite une fois et qu'on ne la fait pas pendant
absolument
20 ans, ça se renouvelle.
C'est l'autre enjeu.
Combien
il faut le définir. Il faut le définir, le fait de le renouveler. Pourquoi? Parce que aussi, parfois, il y a du maquillage. Vous arrivez dans logement, il vous paraît en bon état. On a mis un coup de peinture blanche, mais il y a une telle humidité parce que il est mal isolé, parce qu'il est mal ventilé, il va pourrir. On va dire, bah oui, mais c'est le locataire qui a mal entretenu son logement. Donc, il faut être prudent avec ces idées. Donc, nous, on propose de le faire dans des quartiers qui sont particulièrement touchés par l'habitat indigne et pour lesquels on aura mis des services communaux d'hygiène et de sécurité qui sont capables d'aller observer si c'est bien des logements à louer.
Alain Goulon, est-ce qu'on peut essayer de mettre des critères, en fait? Ça veut dire quoi? Alors c'est compliqué à dire comme ça, mais ça veut dire quoi, logement insalubre, logement indigne? Il y a différentes catégories, en fait. Comment ça se définit, tout ça?
Alors effectivement, il y a différentes catégories. Il ne faut pas confondre un logement indécent d'un logement non habitable ou impraticable et d'un logement insalubre. Il y a des définitions précise, définie par la loi d'ailleurs. Alors le logement décent avait été défini par la loi Besson en 1990, une des premières définitions politiques, si j'ose dire, qui a ensuite été définie par des textes de loi en 2000 et puis un décret en 2002. La décence, alors la plupart des gens pensent que la décence c'est le coup de peinture ou c'est le robinet. Non, la décence c'est d'avoir un minimum de surface habitable, par exemple, en pièces, 9 mètres carrés avec une surface de haut plafond à 2,25 mètres carrés. C'est d'avoir l'électricité, le gaz, c'est d'avoir les points d'eau, c'est d'avoir de l'eau chaude et de l'eau froide dans la salle de bain, par exemple. Voilà, ça c'est des notions de décence ou de non décence, effectivement, en fonction de ce qu'on caractérise. Après, il y a le logement qui peut ne pas être habitable. Généralement, ce sont, et là on retrouve parfois d'ailleurs, ou souvent les marchands de sommeil, c'est une cave ou un garage qui a été pseudo-aménagé et dans lequel on met une famille généralement très dans la précarité et qui effectivement a besoin absolument de se loger et qu'on exploite. Disons-le clairement. Et ensuite, il y a le logement insalubre, où là, il y a véritablement un danger de santé. Pensons au plomb, par exemple, le saturnisme, qu'on peut retrouver dans les peintures. Ça a un caractère remédiable, c'est-à-dire que effectivement, on peut faire les travaux qui permettent effectivement de réparer l'insalubrité, ou il y a un caractère irrémédiable, c'est-à-dire qu'il y a un danger dans lequel nous ne pouvons pas réparer, et dans lequel, là, il faut effectivement faire partir les personnes, en tout cas les reloger à la charge du propriétaire. Et si le propriétaire est déficient dans ce cas-là, c'est à la commune, effectivement, de faire la démarche.
Le logement que vous décrivez tout à l'heure, la deuxième idée, effectivement, de louer un garage, par exemple, ou des choses comme ça pour des gens et de les exploiter, est-ce que c'est parfaitement illégal? Ça veut dire que si on est pris en train de louer un logement de ce genre-là, théoriquement, on doit quoi faire? Est-ce qu'on est obligé, est-ce que les autorités sont obligées de fournir aux gens qui étaient à l'intérieur de cet appartement un logement qui serait dans la catégorie des décents?
Le propriétaire est tenu de reloger, effectivement.
C'est à la charge du propriétaire.
C'est à la charge première du propriétaire, effectivement, de reloger, que ça soit dans la non-décence d'ailleurs ou dans la salubrité, effectivement, de pouvoir reloger. Souvent, le propriétaire, surtout si c'est un marchand de sommeil, ne le fait pas, et donc du coup, c'est à la collectivité, effectivement, de pourvoir à cet habitat, quitte à se retourner ensuite envers le propriétaire, effectivement, pour payer cet habitat.
Christophe Robert.
Oui, je vais prendre un exemple. On a identifié par le biais de locataires qui sont venus nous voir à la Fondation Abbé Pierre, une dizaine de logements dans Paris il y a quelques mois, qui étaient loués à 1,5 mètre carré à 6 mètres carrés. Donc 1 mètre carré à 6 mètres carrés, 250 euros à 600 euros. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire prendre un arrêté, une interdiction d'habiter ce logement, ce qui vient d'être dit à l'instant. À partir de ce moment-là, quand l'arrêté a été pris, les locataires ne sont plus obligés de payer. Et effectivement, le propriétaire a la responsabilité de reloger. Si le propriétaire ne le fait pas, c'est la puissance publique qui se substitue pour trouver une solution et faire ensuite payer le propriétaire pour qu'il soit mis face à ses responsabilités.
Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu Pascal, on vous écoute.
Merci. Alors voilà, au sein du Secours catholique sur l'Île-de-France, une de mes charges, c'est de m'occuper, je suis bénévole, m'occuper de logements dans l'habitat indigne, le traitement. Ces derniers, depuis un peu plus d'un an, j'ai eu deux cas très difficiles. Un premier cas, c'était des logements, apparemment des logements, c'était en réalité d'anciens ateliers camouflés en logements, où les températures l'hiver à l'intérieur se situaient entre 6 et 9 degrés maximum. Régulièrement des débuts d'incendie, les dossiers, j'ai monté les dossiers, je les ai emmenés au service de l'urbanisme à la mairie, et la mairie a tout le temps étouffé les dossiers. J'ai été obligé de passer par l'agence régionale de santé dont je dépends, qui tout de suite a fait intervenir des techniciens. À ce jour, pour ces familles, les dossiers ne sont pas réglés, malgré qu'il y a eu des interdictions d'habiter, puisque les logements, les soi-disant logements, n'étaient même pas déclarés à l'urbanisme. C'était d'anciens ateliers qui ont été camouflés en logements. et les gens sont encore dedans. La mairie refuse de faire quoi que ce soit. Et le pire, c'est que j'ai une famille composée d'un couple et trois enfants dans un immeuble particulier. Alors là, on n'a jamais vu ça. Il y avait tout, hein, les fils en tissu partout qui pendaient, les fenêtres qui tombaient, plomb, amiante. Ça a été les mêmes batailles avec la mairie. Mmh. J'ai fait intervenir les techniciens de l'ARS qui eux-mêmes n'en revenaient pas. Très vite, on est passé en commission préfectorale, comme pour tous les dossiers, hein, où il y a eu alors de relogement immédiat de ces familles, et surtout que le propriétaire soit obligé, en attendant, de refaire les travaux. Mmh. Parce que c'était des logements où les problèmes étaient remédiables. Mmh. Et il n'y a rien qui a été fait. Mmh. Jusqu'à fin juin, où il y a eu un incendie, la mairie est venue sur place, ils ont laissé une famille avec trois enfants en bas âge toute la nuit dans la rue. Ils ont dormi dans leur voiture. Le lendemain, il a fallu qu'on aille à la mairie et demander des explications. Pour obtenir trois nuitées d'hôtel, il a fallu se battre. Mmh. Nous avons subi des pressions phénoménales. C'est inimaginable de la part de la mairie. Ça a été jusqu'à nous envoyer la police municipale.
Oui, on se rend bien compte de la difficulté et d'où le travail, pardon de vous interrompre Pascal, d'où le travail des bénévoles, Christophe Robert, ceux comme Pascal ici, les vôtres aussi. On va poser la question cash comme ça, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a parfois, de la part des pouvoirs publics et notamment des mairies, mais pas seulement, une manière de freiner des cas de fer pour éviter de prendre les décisions qui s'imposent? Est-ce que c'est compliqué d'avoir affaire aux autorités ou est-ce que c'est un cas d'école celui de Pascal?
C'est vraiment un cas d'école, mais franchement, c'est insupportable. Mmh. On voit bien que l'arsenal juridique permet d'agir. Et là encore, les familles sont accompagnées par quelqu'un qui connaît, mmh, manifestement. Le collègue du Secours catholique a la connaissance des dossiers et est prêt à aller jusqu'au bout, ça se sent. Si vous voulez, ce dont on souffre, c'est quoi? C'est effectivement des arrêtés qui sont pris, qui sont pas suivis des faits. On souffre aussi du fait qu'il n'y a pas un suivi des dossiers, pour s'assurer que le propriétaire va bien être mis face à ses responsabilités. On souffre aussi quoi? D'un manque de solutions alternatives à proposer. C'est-à-dire qu'il y a la lutte contre l'habitat indigne en soi, et le plan national que nous avons appelé de nos voeux ce matin, c'est bien un plan de lutte contre l'habitat indigne. Mais au fond, les personnes n'iraient pas dans ces cagibis ou dans ces logements qui n'en sont pas s'il y avait d'autres solutions pour elles. S'il y avait du logement social en nombre suffisant, s'il y avait du parc privé qui corresponde aux capacités financières des ménages. Donc évidemment, on manque de moyens pour pouvoir mener à bien ces procédures jusqu'au bout. Et parfois, et c'est le cas de l'exemple qui vient de nous être cité, il y a des collectivités qui ne veulent pas faire. Et notre plan que nous proposons ce matin, c'est justement de dire, quand les collectivités font, et il y en a qui font très bien, pas de problème, mais quand elles ne font pas, il faut absolument se substituer, parce qu'autrement, on laisse des personnes dans la situation qu'on vient d'entendre, ou on laisse des personnes qui vont mourir dans des logements, comme ça s'est passé à Marseille. Et à un moment, il faut qu'on prenne la mesure de ce que ça signifie, cette exploitation de la misère, quand on n'a pas d'autres solutions à proposer.
Et on va venir effectivement aux bailleurs sociaux, notamment avec la question suivante. Alain Gollon, avant d'y aller, il y a un certain nombre de mesures quand même qui ont été prises et sont sur le point d'être prises, en tout cas après les histoires de Marseille, notamment de réduire le maquis des différentes toutes les choses administratives qu'il faut faire, justement, que nous décrivait Pascal par exemple. Est-ce que la solution passe effectivement par là, réduire à la fois les interlocuteurs, réduire les étapes aussi lorsqu'on a quelque chose à dire d'important au sujet de son logement?
Alors, bon, effectivement, le témoignage qu'on vient d'entendre est un témoignage, c'est un cas d'école. D'ailleurs, je tiens à préciser, parce qu'on le voit quand même sur le terrain, c'est que les collectivités, notamment les mairies, sont généralement le plus souvent complètement dépossédées, effectivement, du travail. C'est-à-dire qu'on leur donne un arsenal qu'elles n'ont pas le moyen de mettre en application. On parlait tout à l'heure du permis de louer, qui est un formidable outil qui existe effectivement depuis de nombreuses années en Belgique et qui fonctionne très bien, sauf qu'on leur donne pas les moyens derrière de pouvoir l'appliquer et de pouvoir le mettre en place. Des villes le mettent en place avec une volonté, mais ils savent très bien qu'il y a une limite, et c'est pour ça qu'ils le réduisent généralement à un ou deux quartiers de leur ville, parce qu'ils n'ont pas les possibilités d'aller plus loin. Donc l'arsenal juridique, l'arsenal de défense des gens existe. Effectivement, il y a beaucoup d'interlocuteurs. Il y a peut-être beaucoup trop, effectivement, d'interlocuteurs dans ce système-là. Mais à la rigueur, j'oserais dire qu'il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas du tout. Moi, à mon sens, il y a surtout un défaut, c'est un défaut de l'État. Je me permets de le dire, il y a un défaut de l'État.
Vas-y.
À ce niveau-là, c'est-à-dire que l'arsenal juridique, le permis de louer, c'est très bien, c'est la loi Allure qui l'a mis en place, mais ça reste facultatif. Il pourrait très bien le généraliser et le rendre obligatoire et donner les moyens derrière à tous les, effectivement, à tous les maires de pouvoir le mettre en, à disposition. Après, effectivement, il y a le combat par rapport aux marchands de sommeil. Est-ce qu'il est si difficile, effectivement, de mettre en place, la Fondation Abbé Pierre le fait avec le plan qu'il propose aujourd'hui. Marseille était un drame, mais on en a eu à Paris, on en a eu à Lyon, on en a dans différentes villes, qu'on médiatise pas d'ailleurs, mais ça existe tout le temps. Donc effectivement, moi je suis prêt...
À la ville, à la campagne, je vous interromps,
la ville,
c'est
la campagne.
Aussi ce que j'ai lu dans votre rapport, c'est pas que un phénomène urbain.
C'est pas seulement un phénomène urbain, on le rencontre, on l'a rencontré nous à Nevers, on le rencontre à Saône-et-Loire, on le rencontre dans différents endroits, c'est un phénomène. Pourquoi ? Parce que on laisse aussi, on laisse à l'abandon un parc extrêmement ancien dans le privé. Si on, pour l'instant, on parle effectivement essentiellement du privé, on ne parle pas encore du parc social, où il y a aussi du logement d'indécent et insalubre. Le parc ancien est complètement dégradé et se laisse dégrader. On ne donne pas les moyens. On connaît les copropriétés, notamment on connaît le cas de Grigny qui est le plus connu, mais il y en a d'autres. Et ça provoque effectivement du logement indécent, ça provoque du logement insalubre, et c'est inadmissible effectivement de laisser ça comme ça. Et l'État, pour le coup, a un rôle à jouer dans ce système-là. Ne serait-ce que de financer du logement social, effectivement, pour rejoindre ce qu'a dit la Fondation Abbé Pierre, de dire, les gens qu'on met qui sont dans ce genre de logement, c'est des gens qui sont en précarisation avancée, qui sont dans la pauvreté, qui sont les couches les plus populaires, voire ceux qui sont exploités par les marchands de sommeil. S'il y avait suffisamment de logements sociaux, effectivement, en France, ça permettrait d'éviter ce genre de situation.
Et c'est le sens de votre question, Damien, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Nancy, on vous écoute.
Eh ben, c'était justement effectivement ma question. Les gens qui sont dans ces conditions précaires, s'ils vont voir ces marchands de sommeil, c'est qu'ils n'ont pas accès au logement social qui leur est prioritairement destiné. Et je me dis, le rôle de l'État, comme vient de faire valoir votre intervenant à l'instant, c'est le désengagement actuel du gouvernement par rapport au logement social, c'est aussi priver les gens d'accéder à des logements qui seraient plus qualitatifs que le parc privé dont on parle actuellement.
Merci Damien pour votre question. On peut qu'approuver ce que dit Damien, Christophe Robert. Évidemment que l'une des clés là, est-ce que la raison pour laquelle on est autant dans ce chiffre de logements insalubres dans le parc privé, c'est précisément parce que le parc public n'a absolument pas les moyens de suivre.
Le rapport réalisé en 2015 à Marseille, si on reprend l'exemple de Marseille, mais on pourrait le développer ailleurs, qui montrait qu'il y avait 40 000 logements dangereux au sein même de Marseille, disait... Parmi ces 40 000 logements, il y a 30 000 ménages qui sont dedans parce qu'ils ne trouvent pas d'autres solutions pour se loger. Personne ne va s'engouffrer dans un logement
pourri. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne portent pas plainte également auprès des propriétaires.
Parce qu'ils ont peur de perdre leur seul toit, même pourri. Donc effectivement, autant il y a à mettre en place des moyens d'action, d'accompagnement des ménages aussi. J'insiste beaucoup sur cet accompagnement, parce que ça prend du temps pour leur expliquer, pour les accompagner juridiquement, les accompagner pour faire les travaux, etc. Propriétaires comme locataires. Autant donc il y a à mettre en place des outils pour développer la lutte contre l'habitat indigne. Autant, c'est une conséquence de la crise du logement. Donc, quand vous êtes dans un territoire qui est détendu, où le logement privé est de qualité et pas cher, et il y a suffisamment de logements sociaux pour tout le monde, il n'y a pas ce problème-là. Il n'y a pas ce problème-là. Il peut y avoir des propriétaires occupants qui ont un logement hérité de leur famille, qui n'ont pas pu entretenir pendant 10, 20, 30 ans. Mais au fond, c'est un des symptômes majeurs de la crise du logement. Et c'est là où on est très inquiet. Parce qu'effectivement, par exemple, le gouvernement a affaibli les capacités financières des bailleurs sociaux. 1,5 milliard quand même par an en moins pour construire du logement social, pour rénover du logement social, pour apporter des services aux locataires dans le logement social. Eh bien, à terme, ça va avoir une conséquence.
Par quel créneau passe ce genre d'appartements qui sont à moins de 9 mètres carrés ou qui sont particulièrement insalubres? J'imagine que c'est pas dans les agences immobilières que ça se passe. Alain Gollon, comment ça se passe? Par quel créneau? Comment on sait que ces appartements existent? Comment s'arrangent ces marchands de sommeil pour faire en sorte que pour 250, 300, 400 euros, ils aient la possibilité de louer ces endroits-là?
Là, vous touchez à un point particulier, c'est que c'est très difficile à savoir. La Fondation Abbé Pierre mentionne effectivement dans ses rapports le nombre de logements indignes probables en France, mais ça reste un chiffre très 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 problématique, puisque on est dans l'incapacité effectivement de savoir exactement la situation du logement indigne.
J'ai un chiffre qui dit 450 000, donc ça fait à peu près 1 million de personnes, mais si ça se trouve c'est beaucoup plus.
C'est beaucoup plus. Dans l'Île-de-France, on considère, l'Institut de l'urbanisme considère qu'il y a 180 000 logements indignes en Île-de-France, qui représentent à peu près 4% du parc privé, mais ça reste encore des estimations. On est dans l'incapacité de le savoir. Moi, je travaille essentiellement effectivement dans le Val-de-Marne, qui est la Seine du Val-de-Marne. Si on n'a pas les remontées de personnes de manière indirecte souvent, parce qu'effectivement le locataire lui-même, il a tellement peur de se retrouver à la rue qu'il ne dira jamais rien, parce qu'il préfère effectivement avoir un toit, même insalubre, que d'être à la rue. Il ne dira rien. Donc on le sait toujours de manière indirecte, effectivement, que à tel endroit, effectivement, il y a un logement insalubre, un logement indigne, etc. Donc après, c'est comment faire le combat. Si le locataire lui-même ne désire pas faire le combat, parce que par peur, par honte, etc., il est très difficile de faire le combat à sa place. Donc voilà, il y a un manque effectivement de clarification sur, de systématisation des statistiques, effectivement, et ensuite d'accompagner, je reprends le terme, effectivement, d'accompagner les gens dans ce combat, qui est relativement simple par rapport à parfois. Moi, il y a une solution qu'on oublie souvent. Un locataire qui, par exemple, concrètement, un locataire qui considère que son logement peut être indécent peut faire une première demande auprès de son bailleur, mais peut faire une demande auprès de la CAF, surtout s'il touche les aides au logement. Il peut faire demande auprès de la CAF qui mandate un inspecteur qui viendra effectivement voir le logement. C'est une des premières démarches qu'on connaît très peu et pourtant qui était d'une efficacité redoutable, puisque la CAF, effectivement, systématiquement envoie un inspecteur pour faire ce type de démarches.
Une question, j'allais dire, frappée au coin du bon sens. Dans les établissements qu'on nous pose sur franceinter.fr, dans les établissements qui reçoivent du public, il y a des commissions de sécurité qui passent très régulièrement. Pourquoi ne pas faire la même chose avec les logements? Vous allez me dire, Christophe Aubert, que théoriquement ça existe, sauf que ces endroits-là passent évidemment au travers de ces mailles-là.
Oui ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où on a des équipes qui sont dédiées en nombre suffisant, en nombre important, pour pouvoir faire du repérage, en disant, là c'est bizarre, on a eu le témoignage d'un habitant dans un appartement, dans un immeuble, faudrait-il peut-être aller frapper aux portes des autres appartements de cet immeuble, ou qui font du repérage aussi par rapport à la qualité des logements. Des équipes dédiées de lutte contre l'habitat indigne. Vous savez, c'est là où on a une discussion avec le gouvernement aujourd'hui, parce que la loi Elan fait évoluer un certain nombre de dispositifs législatifs. Et c'est bien taper plus fort au portefeuille des marchands de sommeil, simplifier. Évidemment, c'est nécessaire et c'est utile. Et il faut le faire. Mais si on n'a pas des forces vives de l'État via les agences régionales de la santé, comme le disait le monsieur en parlant de ces cas tragiques tout à l'heure, des équipes d'hygiène et sécurité dans les agglomérations, dans les villes, qui vont avoir cette responsabilité-là, eh bien, on laissera faire. Et on voit très bien, je vais prendre deux exemples, Paris-Marseille, deux grandes villes de France. Marseille a beaucoup laissé faire, on l'a largement dit depuis des semaines. Je ne veux pas y revenir, mais il n'y avait même pas d'équipe vraiment dédiée pour s'occuper de ce sujet-là.
40 000 logements insalubres, c'est un record ou pas, sérieusement?
C'est beaucoup, ouais, okay. C'est 10% du parc, c'est beaucoup. Si vous regardez ce que, par exemple, la ville de Paris en 2001 a décidé d'intervenir en disant, voilà, on a identifié 1000 immeubles, pas appartements, 1000 immeubles, eh bien on se donne 10 ans. Pour les rénover, éventuellement même les transformer, ces logements privés en logements sociaux, et d'apporter des solutions pour les personnes. Il y a eu des équipes qui ont été montées, des compétences qui se sont développées, des outils d'aménagement qui se sont créés, et en fait, une force de frappe pour pouvoir intervenir. Donc c'est possible, mais il faut vouloir le faire. Il faut de la volonté politique, il ne faut pas simplement se dire « Ouais, bah les gens, ils se débrouillent, hein. ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de logement. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le logement, c'est un droit. Il y a des responsabilités de bailleurs, et donc il faut qu'on se donne les moyens d'accompagner les ménages et de faire valoir ce droit.
Marion, bonsoir.
Ah.
On reste autour des mêmes thèmes avec vous. Bonsoir, on vous écoute.
Oui, voilà. Bah, moi, je me demandais, en fait, je voulais entendre vos intervenants sur le fait qu'à mon avis, moi, je me demande s'il ne faudrait pas remettre en cause les arbitrages généraux de la politique du logement. Ça fait depuis 1977 que l'État essaye de favoriser le locatif privé au détriment du locatif social. Ça fait des années qu'on met des milliards et des milliards par an, parce que, je veux dire, les APL, c'est 18 milliards par an, les avantages fiscaux, c'est 13 milliards par an. Je veux dire, la politique du logement en général, c'est presque 40 milliards par an. On met des milliards et des milliards d'agents publics dans des aides qui sont en fait très largement captées au profit des, en fait, des gens qui font du profit immobilier. Et donc en fait, moi ce que je trouve assez terrible, c'est que on dit oh oui, il y a du relogement insalubre, regardez, c'est terrible la misère, mais en parallèle, on subventionne le profit immobilier. Et donc voilà, je me demandais si, en fait, plutôt que d'affaiblir le secteur HLM comme le fait Macron avec ses mesures récentes de vente du parc dégradé, des choses comme ça, si on pouvait pas simplement réinvestir ces milliards dans la construction de logements, qu'on pourrait ensuite proposer aux gens qui sont dans la merde.
Merci Marion pour votre remarque, effectivement. Christophe Robert, changer de paradigme, en fait, c'est ça que nous suggère Marion, prendre le problème à l'envers, en fait.
Oui, alors tout dépend de quoi on parle, parce que quand Marion parle de 40 milliards, il y a par exemple les aides de TVA réduites pour ceux qui font les travaux chez les uns et les autres, pour les artisans. Il faut qu'on regarde précisément de quoi sont composés ces 40 milliards. Mais les 18 milliards d'APL, d'abord, c'est pas que l'État, là, on parle de 40 milliards de la collectivité. C'est l'État, c'est les partenaires sociaux, c'est les collectivités locales, qui composent ces 40 milliards. 18 milliards d'APL, bien sûr, si on pouvait s'en passer, ce serait sans doute bien, parce que ça coûte cher. Mais c'est aujourd'hui déjà concentré sur les ménages pauvres et modestes, c'est-à-dire 6,5 millions de ménages, 13 millions de personnes qui, sans ces APL, ne pourraient pas se loger dans de bonnes conditions. Donc l'affaiblissement des APL auxquels on assiste depuis un an et demi avec ce gouvernement n'est pas une bonne nouvelle. Là où je pense que Marion a raison, c'est qu'il faut absolument réfléchir à là où on met l'argent. Quand on produit du logement social, c'est du logement pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, 100 ans, dont les loyers sont maîtrisés. Parce que, en contrepartie, l'État dit, il faudra pas aller plus haut que tel ou tel, tel niveau de loyer. Par contre, effectivement, il y a une partie des APL qui partent, y compris chez des marchands de sommeil qui profitent, qui captent ces APL et qui vont pas loger convenablement. Donc, il faut plutôt vérifier qu'ils donnent des logements de bonne qualité. Changer le paradigme, pourquoi pas? La question quand même qui est posée, c'est que dans les secteurs tendus, on voit des écarts considérables entre les capacités financières des ménages dans les villes et la réalité du coût du logement qui ne cesse d'augmenter, les prix de l'immobilier, les loyers, les charges. Donc je pense que le changement de paradigme pourrait être,
par exemple, d'encadrer les loyers.
Eh bien, d'encadrer en tout cas le marché, de le réguler. C'est pas idéologique, mais c'est de dire maîtriser les charges. Rénovation thermique très forte. Donc là, changement de paradigme. On investit très fort sur la rénovation thermique. Quand on le fait, on fait baisser les coûts du logement pour les ménages de manière considérable. Donc oui, il faut intervenir sur les 7 millions de passoires thermiques et c'est un bon investissement. Il faut maîtriser le foncier. Donc il faut faire des réserves foncières. Des collectivités comme Rennes le font depuis 30 ans et elles peuvent appliquer des politiques du logement. Maîtriser les loyers, oui, dans les secteurs très tendus, parce qu'il n'y a pas de limite à la flambée des loyers. Et sans doute, on pourra aller plus loin dans les systèmes de régulation. Et ça, ce serait un débat qu'on devrait avoir avec nos concitoyens, parce que beaucoup en France considèrent que il faut laisser faire le marché parce que ça s'auto-régulera. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai.
Tiens, puisqu'on est dans les témoignages, je voudrais qu'on écoute celui de Thierry. Bonsoir Thierry.
Oui, bonsoir. Excusez-moi. Oui, donc moi je voulais témoigner parce que je suis locataire d'un appartement qu'on m'a attribué par le CCAS du 78, donc de ma commune, que moi je juge insalubre parce que quand j'ai pris l'état des lieux, il était plein d'humidité, plein de fissures. Il faut savoir que l'ancienne locataire est morte dans cet établissement, donc dans ce logement. Et on l'a attribué sous toute réserve en disant comme quoi on ferait les travaux suite à mon emménagement, patati patata. Or, moi, j'ai nettoyé l'appartement et je me suis retrouvé avec 120 jours de clinique. J'étais entre la vie et la mort deux fois de suite, donc dans la même nuit, et pour septicémie aggravée. Et depuis, je me bats, j'essaie de faire déplacer depuis ma clinique l'ARS, mon maire, le préfet, j'ai fait un article dans le courrier de Mantes, rien n'a bougé. L'ARS n'a même pas répondu à mon courrier, le préfet m'a répondu comme quoi les délais étaient très longs, mais rien n'a bougé. Et du coup, sortie de clinique au bout de 120 jours, j'ai dû retourner dans cet établissement, dans ce logement.
Dans ce logement, oui.
Voilà. Et du coup, rien ne bouge. Et quand j'entends comme quoi on peut saisir telle ou telle chose, par exemple comme la CAF, ce que j'ai fait par le biais de l'assistante sociale de la clinique où j'étais, ils n'ont pas bougé, il n'y a pas eu un seul enquêteur d'envoyé. Là, je viens d'avoir un constat d'insalubrité il y a 20 jours seulement, de la police municipale, et j'en attends encore les retombées. Vous voyez, donc rien ne bouge, on peut saisir toutes les administrations, on a la DDT qui a été saisie aussi, c'est beau, mais rien, personne n'est venu chez moi faire des prélèvements, faire des constats, faire quoi que ce soit. Alors mon infectiologue est persuadé que c'est ici que j'ai chopé le germe.
Et vous avez eu un constat d'insalubrité, d'insalubrité quand même, vous disiez.
Là, il y a 20 jours.
D'accord.
Il y a 20 jours.
D'accord.
Les murs sont fissurés de partout, il y a de l'humidité qui coule sur certains murs. Moi, du coup, j'ai enlevé tous les papiers peints quand je suis rentré dedans, et deux jours plus tard, je me retrouvais entre la vie et la mort à la clinique, quoi.
Et donc,
pour un choc septique.
Et merci pour votre témoignage, Thierry. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Alain Gollon? Qu'est-ce qu'on dit à Thierry? À un moment, quand on a l'impression d'avoir tiré toutes les ficelles, alors est-ce que, je sais pas, il faut aller voir une association, aller voir la Fondation Abbé Pierre, le Secours Catholique, comme tout à l'heure, pour que quelqu'un vous aide à faire les démarches? Qu'est-ce qu'on fait?
Ah, mais non, dans ces moments-là, effectivement, il faut pas rester seul avec son problème. Je dis pas que ce monsieur l'a été, mais effectivement, il faut pas, surtout, c'est du logement social. Je sais pas, il a pas précisé dans quel, si c'était du logement social. D'autant plus,
c'est du logement social, Thierry, on va vous poser la question, c'est du logement social ou pas?
Tout à fait, c'est Mille et une vie habitat.
Ah bah d'accord. Oui, c'est anciennement coopération et famille, oui, tout à fait. Donc effectivement, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à aller voir des associations de locataires qui sont à même, effectivement, de pouvoir vous accompagner et de pouvoir vous soutenir dans ces démarches-là. Et il n'est pas normal, heureusement que la police municipale l'a fait, mais c'est pas dans ses prérogatives, a priori, première en tout cas, de faire cette démarche. Mais tant mieux qu'il l'ait fait, tant mieux que vous ayez ce constat. Mais il faut aller voir des associations qui pourront vous aider, parce que visiblement, il y a un blocage un peu partout de toutes les institutions, pour X raisons. Il faut pas hésiter à se faire aider dans ces moments-là et de pas rester seul. J'invite Thierry, autant que les autres personnes qui écoutent, effectivement, d'aller voir une association, effectivement, qui pourront les aider à éviter les pièges, en tout cas, de ce genre de procédure.
Christophe Robert, je vous entendais réagir au témoignage de Thierry.
Non, mais je partage totalement l'analyse, c'est-à-dire que on voit bien, et c'est bien tout le malheur de cette histoire, et c'est pour ça que ce plan national, on veut vraiment qu'il soit orchestré, piloté par l'État, non pas pour dédouaner les responsabilités des collectivités locales, mais encore une fois, il y a des endroits où on fait bien, il y a des endroits où on fait pas, et il y a beaucoup d'endroits où on fait pas du tout, par mauvaise volonté, manque de courage politique, ou pour tout un tas de raisons. C'est pas normal qu'il n'y ait pas eu, là, dans le cas présent, de visite. Donc c'est pas normal qu'il n'y ait pas eu de réponse de l'ARS, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de réponse de la CAF, c'est très étonnant. Soit il y a une histoire particulière, effectivement. Heureusement, vous, maintenant, vous avez un arrêté d'insalubrité qui va vous pouvoir commencer les démarches. J'espère une interdiction d'habiter, tout dépend de l'état du logement. Mais effectivement, moi, je pense, comme Monsieur Gollon, qu'il faut absolument que les gens aillent voir des associations spécialisées. C'est tellement compliqué, techniquement. Et quand on est soi-même affecté par ces conditions de vie-là, on n'a pas le courage. Donc, il faut qu'on ait d'ailleurs plus de moyens. La Fondation le fait avec les moyens des donateurs, vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut qu'on développe des permanences d'accès aux droits de partout. Les associations de locataires peuvent être saisies, les associations de consommateurs aussi. Il faut vraiment ne pas hésiter à aller voir et se faire appuyer, parce qu'on ne peut pas rester dans des conditions pareilles.
Allez, ce sera vous le dernier auditeur ce soir, Serge. Bonsoir et soyez le bienvenu.
Bonsoir. Alors moi, je m'étonne qu'on ne parle pas du concept de propriété privée, et particulièrement des propriétaires d'appartements. Sur votre antenne, on entend tous les jours une publicité pour des investissements dans du logement neuf où on vous offre 3 mètres carrés. Ces acquéreurs, ces propriétaires sont des pauvres. Ce sont des gens qui sont en général des salariés, qui, on ne sait pas comment, ont l'idée de devenir propriétaires pour louer. Et quel montant de loyer ils vont choisir de louer leur appartement? Eh ben, celui qui correspond au remboursement à la banque. C'est ce que j'appelle un propriétaire pauvre. Et ces gens-là, on est dans, comme vous dites, la loi du marché. Moi, je trouve ça personnellement absolument scandaleux et ignoble, mais on pourrait pallier cet inconvénient, par exemple, en faisant en sorte que fiscalement, ces braves gens soient, par exemple, défiscalisés s'ils acceptaient d'abord, de remettre un local. En général, quand ils achètent, c'est du neuf, donc tout va bien. Mais au moins qu'ils puissent faire des loyers acceptables. Et par exemple, s'ils louent à 100 mètres carrés à 1000 euros à Paris, eh ben le montant des loyers perçus serait entièrement défiscalisé. Ça pourrait faciliter les choses. Et j'imagine en plus dans les quartiers où les loyers sont plutôt entre 800 et 1200 euros.
1000 euros 100 mètres carrés à Paris, c'est pas cher.
Non, Serge. Non, mais je sais pas, je connais pas les montants. Donc,
10 000 en moyenne.
Ouais, au moins.
Non, mais non, je parle pas de l'achat là. Hein, je parle du montant des loyers mensuels. Si on a un loyer mensuel de 1000 ou 1200 euros par mois, parce qu'aujourd'hui c'est 2500, 3000 euros un 100 mètres carrés dans Paris. Donc, et encore, ça dépend des quartiers. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas pensé à cette option qui est une fiscalité adaptée à la problématique du mal logement et de la difficulté à se loger, y compris et surtout d'ailleurs dans les dans les métropoles, quoi.
Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage, Serge. Deux choses, Christophe Robert. D'abord, effectivement, donc sur la fiscalité, vous allez pouvoir répondre. Et surtout, et aussi, il a raison, Serge, sur l'idée de ce qu'il appelle, lui, le propriétaire pauvre. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, n'a plus les moyens de rénover cet appartement-là. Qu'est-ce qu'il y a comme clé pour éviter qu'on en arrive à des situations comme celle-ci?
Quand on parle de 600 000 logements potentiellement indignes, parce que l'évaluation à 420
000... Tout le monde n'est pas marchand de sommeil dans ces 600 000-là.
Ah non,
en fait,
pas voilà. Loin de là. Mais vous avez la moitié qui sont des locataires et la moitié qui sont des propriétaires. Ça veut dire qu'il y a aussi des propriétaires, par exemple en milieu rural, mais aussi en secteur urbain, qui sont propriétaires de leur logement, pensaient avoir les moyens de pouvoir le retaper, n'ont pas réussi à le retaper pendant 10-15 ans, ou ont hérité d'un logement et se sont dit « allez, j'y vais ». Et pendant 30 ans, ils n'ont pas pu faire les travaux et ils vivent dans des véritables taudis. Il faut les aider. Il faut les aider. Nous, on a un programme qui s'appelle SOS Taudis. Vous avez des personnes qui ne demandent rien, qui n'appellent pas à l'aide, mais qui vivent dans des conditions innommables. Et il y a des outils
grâce à l'ANAH. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas, puisque l'appartement est à eux.
Exactement. Et souvent, ils se disent « je suis propriétaire », donc voilà. Donc là, il y a aussi beaucoup à faire, y compris pour les personnes âgées en milieu rural. Par rapport à la fiscalité, il y a deux choses par rapport à ce que disait Serge. C'est que je pense que monsieur parlait des outils de défiscalisation dans l'achat neuf. Bon. De dire il faut avoir des contreparties quand même à la défiscalisation qui servent le besoin, la collectivité. Par contre, ce qui existe, c'est ce qu'il appelait de ses voeux. Il existe des dispositifs, ce qu'on appelle de logements privés à vocation sociale, où plus vous baissez vos loyers, plus vous êtes prêt à les louer à des personnes en situation de fragilité, plus vous allez bénéficier d'avantages fiscaux ou d'aides de la collectivité ou de l'État. Donc ça existe déjà, c'est les dispositifs loués solidaires, Solibail, que nous on appelle de nos voeux à développer, c'est-à-dire ça devient une offre de logement privé à vocation sociale, complémentaire au logement social. L'outil tel qu'il est façonné aujourd'hui en France marche à peu près, mais si on veut vraiment le démultiplier, il va falloir le rebooster avec des aides fiscales beaucoup plus incitatives et des aides aux propriétaires beaucoup plus intéressantes.
Alain Golon, je voudrais juste pour conclure, parce que je rebondis sur ce que disait Christophe Robert, que lorsque les gens sont propriétaires, est-ce qu'on a les mêmes droits lorsqu'on est dans un propriétaire dans un logement insalubre, c'est-à-dire d'être relogé si le logement est vraiment dans un état terrible, etc., que lorsqu'on est locataire? Est-ce que c'est plus compliqué quand on est propriétaire?
C'est plus compliqué pour quand on est propriétaire, évidemment. Je siège en commission d'ALO, qui est la loi de droit au logement opposable. Régulièrement, nous avons des dossiers, effectivement, de gens propriétaires qui ne peuvent plus payer leur traite, leur crédit, et qui font
effectivement
l'appartement par avolo. Et on le dit souvent, mais c'est le cas. C'est la banque qui devient réellement le propriétaire. Il y a un très beau documentaire qui a été fait sur les propriétaires spoliés d'Espagne, qui s'appelle Brix, que je vous conseille de voir, qui est excellent et qui montre effectivement ce genre de choses. Simplement rapidement pour parler du paradigme, qu'il faut changer rapidement, parce que vous parliez justement de la propriété. Je pense qu'il y a un des premiers paradigmes qu'il faut avoir, c'est surtout ce droit au logement. Je tiens à rappeler qu'effectivement dans la Constitution française, autant le droit à la propriété est reconnu et légitimement reconnu, autant le droit au logement n'existe pas. Il n'est pas dans la Constitution française, c'est un droit constitutionnel, mais il n'est pas dans la Constitution. Et je pense que quand on aura déjà fait ce premier pas politique et philosophique, on aura peut-être avancé vers une meilleure politique du logement.
Et demandé depuis combien de temps, Christophe Robert? Très très longtemps. Merci beaucoup, merci à tous, merci encore pour vos nombreux appels et portez-vous bien.